France Inter.
Un bloc de béton est tombé sur lui, il est décédé sur le coup. Par rapport à la famille, c'est impossible de faire un deuil. Du coup, c'est assez normal qu'on veuille une justice pour Saïdou. Et même, il y a plusieurs décès par rapport au Grand Paris.
Seydou Fofana avait 22 ans, il était apprenti dans le bâtiment sur le chantier du Grand Paris Express. Il est mort le 6 avril dernier. C'est la cinquième victime d'un accident mortel sur ce chantier titanesque, l'un des plus grands d'Europe, où des milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit depuis 2016. Ils creusent les tunnels du nouveau métro automatique qui entourera la capitale, 200 km de lignes et des dizaines de nouvelles gares. Très médiatisé, ce chantier est particulièrement surveillé. La Société du Grand Paris, qui a la maîtrise de l'ouvrage, assure que la sécurité est une préoccupation permanente, qu'elle est même sa priorité absolue. Mais en France, chaque jour, sur des chantiers moins importants, plus discrets, des accidents du travail font des dizaines de morts et de mutilés. Selon les chiffres officiels de 2021, 2 personnes meurent tous les jours sur leur lieu de travail, 100 sont blessées et le secteur du bâtiment est l'un des plus touchés.
Trop souvent, on va venir pointer l'erreur individuelle de la victime en nous disant « Ah bah oui, mais il a fait telle erreur, il a mal boulonné son échafaudage et du coup il est tombé. » Sans se demander « Mais pourquoi ?»
L'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, l'OPP-BTP, souligne que des progrès sont faits pour prévenir les accidents sur les chantiers. Mais il estime aussi que trop de risques restent encore pris. De leur côté, les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux pour contrôler toutes les entreprises actives sur le territoire. Le gouvernement tente, lui, de s'emparer du sujet avec une vaste campagne de prévention qui passe notamment par des spots télé et radio.
Aujourd'hui au travail, tout a basculé en une seconde. Antoine n'a rien vu, mais il a tout entendu. Son collègue avait 38 ans.
Conseils et ressources sur sécuritéautravail.gouv.fr.
Grand Paris, quel coût humain pour ce chantier titanesque? C'est un reportage de Sophie Parmentier qui nous emmène d'abord dans la nouvelle gare de Saint-Denis-Pleyel, au nord de la capitale, avec Raymond Albouy à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
On arrive sur le chantier du Grand Paris, des grues autour de nous, du béton, de la ferraille, des engins de chantier. On est attendu à l'accueil devant un Algeco, installation de chantier.
Bonjour, bienvenue sur le chantier de la gare de Saint-Denis-Pleyel.
Bonjour monsieur.
Moi je suis donc Bernard Catelin, membre du directoire de la Société du Grand Paris. On va visiter le chantier, mais dans un premier temps, je vous propose de mettre les équipements de sécurité. On y va, on va commencer par les chaussures de sécurité.
D'accord, alors je mets...
Elles sont là.
Les chaussures montantes, noires, avec des semelles, j'imagine, antidérapantes.
Alors, semelles antidérapantes et puis un renfort surtout dans la partie supérieure. Comme ça, si jamais il y avait quelque chose qui tombait, votre pied est protégé.
Alors, les chaussures.
On va enfiler le petit gilet
rétro-réfléchissant,
chasuble.
Orange fluo.
Le casque pour prévenir de toute chute d'objets.
Un casque en plastique blanc, ok.
Les lunettes qui vont avec le casque.
Ah, il faut enfiler les lunettes.
Ça permet de protéger vos yeux. Et puis les gants.
On y va.
On y va. Bonjour.
Donc là, il faut faire attention à la circulation des véhicules aussi. Là, c'est un...
Oui, alors les espaces où on traverse des circulations de véhicules sont marqués, mais évidemment, il faut être prudent et s'arrêter avant de les franchir.
C'est quoi comme engin là?
C'est un tractopelle qui vient faire tout ce qui est terrassement de la zone. On est en train de rentrer dans la gare de Saint-Denis-Pleyel. On va aller par là.
Il y a des petites guirlandes lumineuses là le long des murs. C'est pour que les ouvriers qui travaillent ici se repèrent mieux.
Il y a des guirlandes lumineuses, en fait, c'est surtout pour pouvoir éclairer, puisque là, on est en plein jour, donc le chantier est encore assez clair, même quand on est dans des espaces fermés, comme les escaliers qu'on vient de prendre. Mais c'est un chantier qui tourne quasiment 24 heures sur 24. Et de ce fait, il y a des moments où c'est beaucoup plus sombre. Donc cet éclairage-là, il permet de se repérer nuit et jour.
Il y a combien de personnes qui travaillent sur le chantier?
Aujourd'hui, il y a à peu près 400 personnes sur ce chantier qui interviennent dans les différents corps d'État.
Nuit et jour, donc.
une partie, ce qui est le plus urgent ou ce qui nécessite des travaux de nuit, qui interviennent 24 heures sur 24, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, on est là jour et nuit. Donc là, vous voyez des travaux de pose de façade qui continuent.
Donc là, c'est des ouvriers qui portent un énorme pilier métallique.
Alors, ils ne le portent pas, en fait. Là, vous voyez qu'il y a un...
Il le soulève avec des sangles.
Il y a un treuil qui le soulève et eux, ils sont en train de le guider pour l'amener dans sa bonne position. Ce pilier métallique, c'est une des armatures de la future façade.
Ils parlent quelle langue, là, les ouvriers ? Italien, non ?
Il est possible qu'il soit italien, puisque l'entreprise est une entreprise italienne, en effet. Enfin, le sous-traitant qui intervient là-dessus.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes italien ?
Parla italiano ?
Ce sont bien des italiens.
Merci.
On va monter par là.
On est à quelle hauteur, là, à peu près ?
Là, on doit être à 25 mètres, à peu près, par rapport au niveau du sol.
Et on va descendre
de 25 mètres, sous le sol. Jusqu'au quatrième sous-sol, qui est le niveau des quais.
Ah, on voit un ouvrier à moitié en équilibre, avec une perceuse à la main.
Alors, il est sur un échafaudage, donc protégé par son échafaudage, effectivement. Mettez les lunettes, s'il vous plaît.
Et il doit mettre ses lunettes normalement pour utiliser sa perceuse. Et là, il ne les a pas.
Vous n'avez pas vos lunettes ?
Des fois, quand ils sont la boue, on ne voit pas bien. Les images, j'ai pas envie d'écraser la gueule.
Bah ouais, mais quand même. Hein.
Ouais, pour... c'est
bon. On va aller dans les profondeurs.
On s'enfonce dans les sous-sols. Alors, on arrive sur la ligne 14.
On est sur la ligne 14, donc là, vous imaginez, on est sur le quai arrivé de la ligne 14. Vous voyez que le quai, il reste encore des choses à terminer, mais les façades de quai qui séparent le quai de la voie sont d'ores et déjà en place.
C'est sur cette ligne 14 qu'il y a eu le premier accident mortel en 2020.
Oui.
Trois autres sur la ligne 16. C'est évidemment des accidents qui vous ont marqué, vous qui orchestrez ce grand chantier, Société du Grand Paris.
Évidemment, ce sont 5 accidents mortels en tout, hein, puisqu'il y en a eu un également sur la ligne 17 au mois d'avril dernier. C'est à chaque fois un drame absolu, un drame évidemment pour les familles, pour les compagnons, mais aussi pour l'ensemble des équipes. C'est quelque chose qui est pour nous inadmissible. Enfin, il ne faut pas, on ne peut pas admettre qu'un chantier comme celui-là mette en péril la vie des compagnons. La priorité, c'est la vie, la santé des compagnons, que chacun rentre le soir en parfaite santé. Il n'y a pas de sujet de délai, il n'y a pas de sujet de coût. Enfin, la priorité, c'est bien celle-là. On a d'ailleurs replanifié l'ensemble de nos opérations quand on a vu qu'avec le Covid, il y a des délais qu'on ne tenait plus. C'est pour ça que les lignes 16 et 17 aujourd'hui ont été décalées. Sur la ligne 14, on a considéré qu'on pouvait continuer à tenir ces échéances en respectant la sécurité, mais ça reste la sécurité, la première des priorités. Quand on analyse les accidents, alors il faut toujours être prudent parce qu'il y a souvent des procédures qui sont en cours, mais quand on analyse les accidents, que ce soit ces accidents mortels ou même simplement les accidents graves, ce sont toujours des processus qui, à un moment donné, n'ont pas été respectés. Donc faire de la pédagogie, rappeler en permanence l'importance de la sécurité, c'est quelque chose qu'il faut répéter sans cesse. On a donc renforcé un certain nombre de choses. On a analysé le fait que, par exemple, les intérimaires étaient davantage sujets aux accidents que les personnels davantage formés des entreprises. Donc on insiste sur la formation des intérimaires. On a exigé que soit mis en place pour l'ensemble des intérimaires un passeport de sécurité qui est maintenant complètement obligatoire dans nos marchés. On va s'appuyer également sur des organisations syndicales. On est en train de mettre en place un conseil de la sécurité dans lequel elles seront représentées pour analyser l'ensemble des situations et voir comment on peut faire pour renforcer ce dispositif. C'est un travail continu qui ne s'achève jamais tant qu'il y aura des accidents sur nos chantiers et qui est pour nous la première des priorités.
On a croisé tout à l'heure des ouvriers qui parlaient différentes langues.
Oui.
Ils ont parfois du mal à se comprendre, non, dans ce qui doit être fait, où, comment. Ces règles de sécurité, est-ce qu'ils les comprennent tous ?
Alors, ils doivent les comprendre tous, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de traduction qui est fait des règles de sécurité, mais vous avez raison, c'est un des sujets d'attention particulière, faire en sorte que ces consignes de sécurité, elles soient répétées dans toutes les langues. Donc on va aller prendre l'ascenseur de chantier, qui va nous ramener à la surface.
Qu'est-ce qu'il faut ? font là, les ouvriers en face de
nous? Là, ils sont en train d'installer les ascenseurs définitifs. Donc là, vous avez une cabine d'ascenseur qui est en cours de montage.
Et ils n'ont pas leurs lunettes de sécurité, eux non plus.
C'est vraiment le sujet compliqué.
On ressort à l'air libre. Bonjour. Ça fait longtemps que vous travaillez sur les chantiers du Grand Paris, vous ?
Oui, ça fait 3-4 ans.
3-4 ans. Et dans la construction ?
Dans la construction, j'ai 32 ans dans le métier. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Donc ça vous dit quel âge j'ai aujourd'hui.
Vous vous appelez comment ?
Gilles Ali.
Vous faites quoi sur les chantiers du Grand Paris ?
On est dans les ouvrages des gares, on est avec le béton, on vous fait des murs, on vous fait des planchers, on vous fait des escaliers. C'est ça mon métier. Et accessoirement, je suis aussi représentant du personnel. C'est ma vocation aussi. Je fais en sorte de veiller à ce que les conditions de travail de tous les salariés soient optimales et puis qu'on maintient l'emploi, les salaires, surtout la sécurité, la prévention. Je vous le dis un peu dans le désordre, mais voilà un peu grosso modo ce que je m'emploie à faire du mieux que je peux le faire.
Vous travaillez pour quelle entreprise, vous ?
FH Construction.
Vous avez été marqué fatalement par ces accidents mortels qui ont eu lieu sur ce chantier du Grand Paris depuis plusieurs années maintenant.
Oui, oui, humainement, ces accidents qui ont touché nos collègues, parce que ce sont nos collègues, nos amis, c'est vrai, ça traumatise. C'est très dur d'en parler parce que ça touche à l'humain, c'est quelque chose qui nous marque dans notre esprit, dans notre chair. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc je vous ai dit, j'ai 32 ans d'ancienneté dans ce métier, on a toujours veillé à éviter qu'il y ait des morts au travail. Dans ces chantiers qui sont des méga projets, des méga chantiers, on s'est retrouvés là depuis le début, 5 morts, puis une vingtaine d'accidents graves, des gens qui ont eu des mains arrachées, des gens qui ont été blessés et marqués dans leur chair. C'est vrai que ces accidents tragiques, ils nous ont marqués, et ils ont marqué les collègues qui étaient sur place, qui ont vu, qui ont été témoins de la mort. À la Courneuve, vous avez eu M. Soumaro qui est tombé dans un malaxeur, dans un broyeur. Et je ne vous raconte pas comment ça s'est terminé pour lui. Quoi. Sur le chantier là de Playel, vous avez eu M. Da Silva qui a trouvé la mort tout de suite, instantanément, sur la chute d'une plaque. Une plaque de 200 et quelques kilos. Et c'est vrai que tous ces accidents, ils sont traumatisants pour tous les salariés. Quand on a des collègues qui trouvent la mort sur leur lieu de travail, alors qu'on est censé gagner notre vie par le travail, là on perd notre vie au travail. C'est marquant.
Vous me dites que vous avez plus de 30 ans d'expérience sur les chantiers. Vous aviez déjà connu des chantiers avec autant d'accidents mortels ?
Non, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment exceptionnel. On a constaté qu'il y a des problèmes d'organisation. Au niveau de l'organisation du travail, il y a eu pas mal d'anomalies.
C'est quoi les problèmes selon vous ?
Alors, ce que je constate de jour en jour, d'année en année, c'est que les salariés de la boîte, les ouvriers, il y en a de moins en moins. Il y a énormément de sous-traitance et de la sous-traitance en cascade. C'est-à-dire un sous-traitant qui sous-traite un autre sous-traitant qui sous-traite encore un autre sous-traitant. Les emplois précaires comme les intérimaires, il y en a aussi énormément.
Entre ouvriers, vous en parlez souvent de ces accidents mortels ?
À la fois oui. Parce qu'on doit être vigilant les uns vis-à-vis des autres par rapport à notre sécurité et la prévention. Et à la fois non, parce que parler des choses, des accidents tragiques comme ça, c'est pour notre morale, on a besoin d'être dans une dynamique positive. Et on ne peut pas parler tout le temps de la mort au travail, quoi. Sinon on ne viendrait pas au travail. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'encourage, on se dit attention, faites gaffe de ne pas vous blesser, de ne pas entraîner quelque chose qui va faire des orphelins. On est tous pères de famille. Voilà, le but c'est de rentrer sain et sauf à la maison le soir.
Merci Gilles Ali.
C'est moi qui vous remercie.
23 accidents graves, 5 ouvriers décédés, une journée choc organisée aujourd'hui par le gouvernement sur les grands chantiers de notre région. Grand Paris Express, site olympique, ce mercredi consacré à la formation. Au total, plus de 7000 personnes sont concernées par cette opération inédite.
On va contourner la grue gigantesque, blanche, et rouge. On va aller jusqu'à la barrière de ce chantier. On arrive au panneau sens interdit, sauf chantier. C'est là qu'on a rendez-vous avec Jean-Pascal François et sa casquette CGT.
Ben moi, depuis mes 18 ans, je suis à la construction. Là. Voilà, ça fait 40 ans que j'y suis, content d'y être, et une famille de constructeurs depuis très longtemps. Donc, je m'appelle Jean-Pascal François, je suis administrateur de la Fédération de la construction du bois et d'ameublement CGT.
Vous vous dites quoi quand vous voyez là ces grappes d'ouvriers qu'on voit sous ces machines géantes et le chantier qui est très très loin d'être terminé et un certain nombre de morts, beaucoup de blessés aussi?
La première des choses que je regarde, c'est les conditions de travail et de sécurité des salariés, quoi. Parce que je me rends compte que si ce n'est des chantiers qui sont avec une date limite, la livraison pour les Jeux Olympiques, il reste pas mal de travail à faire. Et ce que j'ai peur, moi, c'est qu'on soit dans une sorte de tempête de temps et que tout ça, ça amène à une détérioration des conditions de travail avec de plus en plus de salariés qui travaillent sur un site qui est petit, et j'ai peur de ce qui peut arriver.
Est-ce que ça vous inquiète, vous, de voir cette liste de victimes qui s'allonge sur ce chantier du Grand Paris ?
Pas que sur le chantier du Grand Paris, sur le nombre de morts que nous avons en France dans les activités de la construction. C'est un par jour travaillé. Donc le chantier du Grand Paris, c'est 5. C'est noté notable par les médias parce que c'est justement sur Paris, c'est un chantier emblématique, mais tous les jours en France, nous avons des décès.
Ici, on est tout près du village olympique. Il y a aussi le chantier des JO. Là, il y a moins de victimes pour l'instant.
Je ne dirais pas qu'il y a moins de victimes. Il n'y a pas de morts. Voilà, c'est la différence notable. C'est-à-dire qu'un chantier comme les Jeux olympiques, qui est une vitrine médiatique mondiale, a eu la chance, alors c'est pas une chance, c'est le travail des organisations syndicales, d'avoir une charte sociale qui encadre plus fortement ou qui met plus de contraintes aux entreprises au niveau de la sécurité. Donc on n'a pas d'accident mortel. Par contre, de l'autre côté de la route, un chantier qui est pour le Grand Paris, qui peut être aussi pour les Jeux Olympiques, on a une hécatombe de morts. C'est pas normal parce que une entreprise, elle devrait avoir comme première des priorités le respect de la santé de ses salariés. Et le plus souvent, c'est la finance qui prend le pas, c'est le résultat du chantier. Et alors on parle des morts qui sont dramatiques, mais on parle aussi, je parle des cassés à vie, des gens qui sont handicapés à vie, qui ne retrouveront jamais plus d'emploi ou qui resteront toute leur vie avec un handicap lourd. Cela, c'est plus les entreprises qui les assument, c'est l'ensemble des caisses communes. Et là, on a quand même un gros problème, quoi.
C'est quoi cette charte dont vous nous parlez ?
Donc c'est une charte qu'on a posée sur la construction de tout événement sportif et ou culturel. C'est-à-dire que dans le monde, à partir du moment où le CIO ou la FIFA organise un événement sportif...
Donc le CIO, le Comité International Olympique...
Le CIO, la Fédération Internationale de Football Association, organise donc, comme par exemple au Qatar... un événement sportif, on veut que, pour ces chantiers, une clause de sauvegarde de la sécurité et de la santé des salariés soit inscrite dans la construction. C'est impossible d'avoir des fêtes, des grandes fêtes sportives notamment, qui sont faites sur des cadavres de constructeurs.
Vous vous êtes rendu au Qatar, vous ?
Oui, bien sûr, je suis allé deux fois au Qatar pour voir ce que l'État du Qatar a bien voulu nous faire voir. On ne peut pas comparer quand même le Qatar à la France, c'est incomparable. En France, on a quand même une inspection du travail, on a un code du travail, on a la liberté, nous, les organisations syndicales, de dire ce qu'on veut dire. On ne peut pas comparer le Qatar à la France.
Après tous les accidents mortels sur ce chantier, il y a eu une journée choc de sensibilisation de la part de la société du Grand Paris. Vous avez trouvé ça efficace, vous ?
Alors, moi, tout ce qui va dans le sens de prévention pour ne pas avoir d'accident du travail, c'est une bonne chose. Après cette journée-là, il a quand même a fallu attendre 2 ans après ce qu'on ait alerté le directoire de la société du Grand Paris. qu'il allait y avoir des accidents pour qu'ils nous la mettent en œuvre, quoi. Avec mon côté provocateur, j'ai appelé ça la journée de communication pipeau. Tout ce qui a... Mais bon, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, c'est une bonne chose. Mais ça sera une bonne chose le jour où on aura vraiment plus d'accidents mortels sur les chantiers.
Merci.
Sur ce chantier du Grand Paris, plusieurs ouvriers ont été grièvement blessés et 5 sont morts en 3 ans. Maxime Wagner, 37 ans, percuté à la tête par le tuyau d'un tunnelier. Abdoulaye Soumaoro, 41 ans, tombé dans un malaxeur à béton. Joao Batista Miranda, 61 ans, écrasé par une plaque métallique. Franck Michel, 58 ans, percuté par des palettes. Et Seydou Fofana, 22 ans, tué par un bloc de béton. Il était apprenti. Un autre stagiaire, un élève ingénieur, est mort en 2020 sur un chantier connexe du Grand Paris, celui de la ligne du RER E.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour, je crois que je suis arrivé devant chez vous, au pied de l'immeuble.
D'accord.
Vous êtes à quel étage ?
80 étages, il faut faire là.
Pour les proches endeuillés, la peine se mêle à la colère. On retrouve Sophie Parmentier à Paris, avec la famille de Seydou Fofana.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Vous allez bien ?
Enchanté, merci de m'accueillir chez vous, c'est gentil. Je vous suis. Vous, vous êtes l'oncle, monsieur ?
Oui, je suis l'oncle de Seydou, qui est décédé par un accident de travail.
Vous vous appelez comment, vous ?
Fofana Chekna. Voilà, c'était mon frère, le père de Seydou. Voilà.
Il avait perdu son papa quand il avait 2 ans.
Voilà, c'est comme mon enfant. Seydou, il ne connaît pas son père, il m'appelle moi papa.
C'est vous qui l'avez élevé au Mali avant d'arriver en France ?
Oui, c'est moi qui l'ai élevé au Mali avant qu'il vienne en France. Il était dans ma maison à Bamako. Voilà, c'est moi qui l'ai élevé Seydou. C'est mon fils. Et puis, il a pris la décision un jour de faire l'aventure.
Voilà. L'aventure ?
L'aventure, voilà. Il a fait l'aventure, c'est-à-dire quitter, aller chercher l'argent donc, pour faire vivre et sa famille et lui-même. Quoi.
Pour envoyer de l'argent à sa maman qui est toujours au Mali ?
Parce que Seydou, il avait des sœurs. Sa maman, elle avait d'autres enfants. Le temps est très, très, très difficile pour sa maman et voilà.
Seydou, il est arrivé en France où il vous a rejoint en 2019, c'est ça ? Il n'était pas encore majeur.
On peut dire qu'il a quitté à l'âge de 16 ans au Mali et puis il s'est retrouvé en France. Donc il était scolarisé, il a fait des cours de français, tout ça. Et puis voilà, jusqu'à l'obtention de ses papiers, il a commencé à travailler. Et début du mois d'avril, il n'était pas le premier ou le deux. Le 6, il a eu un accident, il est décédé.
Qu'est-ce que vous savez de cet accident qui a coûté la vie à votre neveu, que vous considériez comme votre fils ?
En vrai dire, bon, c'était sur les réseaux sociaux que j'ai pris qu'il a fait un accident.
L'entreprise ne vous a pas contacté ? C'est sur les réseaux sociaux que vous avez appris la mort de votre neveu ?
Voilà, on sait qu'il a eu un accident, il y a un bloc de béton qui est tombé sur lui, mais pas d'autres infos sur ça.
Il était très jeune en fait, il était apprenti. Il allait tantôt à l'école, tantôt sur ce chantier, où il avait le rôle de manœuvre. On l'appelait le petit sur le chantier.
Oui, il était jeune en âge. Et ce que je ne comprends pas, le moment d'accident, comment ça se fait qu'il était tout seul là-bas ? S'il s'agit d'un apprenti, il devrait être accompagné toujours par quelqu'un de qualifié. Ça m'a mis beaucoup en colère. Ça m'a mis beaucoup en colère. On voulait avoir un minimum d'informations pourquoi il est mort. À quel endroit il est mort. Comment on peut récupérer ses affaires. L'entreprise nous a rien fait.
L'entreprise ne vous a pas rendu les affaires de Seydou.
L'entreprise ne nous a pas rendu les affaires de Seydou. L'entreprise n'a rien fait. Rien.
Vous, vous êtes la cousine de Seydou ?
C'est ça, je suis sa cousine. Fenda Fofana, j'ai 24 ans.
Vous aviez presque le même âge avec Seydou ?
Oui.
Vous avez des photos de Seydou, là, dans votre téléphone ?
Ben voilà.
Là, il fait des jongles avec le ballon de foot.
C'est ça. Il aimait bien le foot, il allait assez régulièrement jouer au foot au stade.
On voit sur les photos, en fait, il a souvent ce sourire. Et on disait qu'il avait beaucoup ce sourire sur le chantier, c'est ça ?
Oui. Le bâtiment, ça le plaisait bien.
Il y a une enquête qui est toujours en cours. Vous avez des informations sur cette enquête et un futur procès ? Ou aucune information ?
Par rapport à l'enquête, on n'a pas encore d'informations. On est toujours dans l'attente. Il est décédé au mois d'avril. Un bloc de béton est tombé sur lui. Il est décédé sur le coup. Ça s'arrête là. C'est tout ce qu'on a eu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on est au mois d'octobre. Du coup, vous vous rendez compte que par rapport à la famille, c'est impossible de faire un deuil. Du coup, c'est assez normal qu'on veuille une justice pour Saïdou. Et même, comme on a vu, il y a plusieurs décès par rapport au Grand Paris. Essayer au moins de savoir si c'est assez similaire, les causes du décès sont assez similaires ou pas, si c'était un accident isolé ou pas. Enfin, c'est logique que justice soit faite. Enfin, c'est dans les normes d'avoir au moins une réponse, au moins de la justice ou sinon de l'entreprise. Savoir qui est responsable ou non de cet accident qu'il a provoqué ou non. C'est compliqué d'avoir des questions mais pas de réponses. C'est vraiment compliqué.
Souvent, en fait, sur les chantiers, on met des plaques avec les noms des architectes ou des gens qui inaugurent. Là, votre cousin, qui était victime sur ce chantier, vous vous dites qu'il faudrait qu'on inscrive quelque part son nom pour se souvenir qu'il est mort là, sur ce chantier.
On aimerait bien qu'on inscrive son nom et qu'on se souvienne de lui, en se disant qu'une personne de 22 ans a quand même été là dans la production... du Grand Paris.
Merci à vous, je vous laisse en famille.
Merci,
au revoir.
Un accident du travail, ça peut être du matériel endommagé, du retard dans le projet, l'incapacité d'exercer son métier.
5 morts et 18 accidents graves. Voici le lourd bilan des victimes sur le chantier du Grand Paris Express en seulement 3 ans.
Le boulot était bien rémunéré, mais difficile.
Une dizaine de personnes, au moins, ont des incapacités de travail à vie.
Des rotations de 8 heures, de jour comme de nuit, à plus de 20 mètres sous terre.
Le tuyau, il est parti directement à la tête à Maxime.
Il a tapé
la tête et Maxime, il est tombé en tremblant par terre.
Selon l'inspecteur du travail, un tel à-coup aurait dû être évité.
Nous tirons l'alarme sur les cadences imposées pour respecter les échéances des ouvrages du Grand Paris. Cette pression ne peut être qu'accidentogène, c'est ce qu'a déclaré l'Union départementale de la CGT 93 dans un communiqué.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir chez vous.
En palace. Hein. Est-ce que je vous sers un café ?
Avec plaisir, un petit café.
Je m'appelle Mathieu Lépine, j'ai 36 ans, je suis enseignant, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Montreuil depuis maintenant une douzaine d'années. Et en parallèle de ce travail, je mène un recensement des morts au travail depuis plusieurs années maintenant, qui a donné lieu à l'écriture d'un livre qui s'appelle « L'hécatombe invisible ».
C'est votre enquête sur les morts au travail ?
Oui, en fait, c'est dès 2016 que j'ai commencé à m'intéresser à cette question, suite à une polémique qui entourait des propos d'Emmanuel Macron, qui, alors ministre de l'économie, avait déclaré qu'au sein de l'entreprise, l'entrepreneur est celui qui prend tous les risques parce qu'il peut tout perdre lui. Et ce tout perdre, lui, à l'époque, a été vraiment un nœud de crispation, de tension, de débat. Parce que, bon, dans la bouche d'Emmanuel Macron, tout perdre, c'était tout perdre sur le plan financier. Mais dans la tête de beaucoup de gens, en tout cas dans la mienne, tout perdre, c'était perdre la vie. Et de fil en aiguille, je commence à me prendre d'intérêt, en fait, pour ce sujet-là. Et l'une des toutes premières, sinon la toute première victime que je recense, c'est un jeune bûcheron de 15 ans. Et à l'époque, voilà, je me disais, 15 ans, c'est quand même l'âge de mes élèves, quoi. Donc, à l'âge des jeunes que j'ai en face de moi en troisième, certains meurent au travail dans le cadre d'un apprentissage, dans le cadre d'un stage. Moi, je trouvais ça choquant. Sur les 4 premières années, j'ai recensé quasiment 1400 morts. Moi, j'en ai recensé qu'une partie, parce que ma source principale, c'est la presse en ligne, la PQR en ligne. C'est aussi au fur et à mesure des témoignages qui me sont envoyés. Et donc, forcément, la presse en ligne ne fait pas un article à chaque mort au travail. Et donc, moi, parfois, ça passe à travers mes radars, je ne vois pas.
En ce moment, là, il y a une campagne lancée par le ministère du Travail pour prévenir les accidents.
Oui.
Vous en pensez quoi de cette campagne ?
J'ai passé des mois à dire qu'il fallait rendre le sujet national, donc je ne vais pas m'y opposer. Ça serait quand même malhonnête de ma part, alors que j'ai passé mon temps à dire l'inverse. C'est déjà un bon début, mais ça ne suffira pas. Je veux dire, il y a des décisions beaucoup plus fortes qui doivent être prises pour faire respecter la loi, notamment le Code du travail, justement, qui est censé venir rééquilibrer cette balance. Sauf que les inspecteurs aujourd'hui sont de moins en moins nombreux, qu'en plus, lorsqu'ils dressent par exemple des procès-verbaux, la justice ne suit pas non plus. Si à un moment l'angle humain suffit pas à ce qu'un employeur se dise « Ah, on va veiller à la sécurité », peut-être que l'angle financier va le motiver davantage. Et aujourd'hui, l'ennui, c'est que ça lui coûte moins cher à l'employeur de laisser l'accident se dérouler que d'essayer de prévenir l'accident. Et ça, c'est un gros problème. D'autant plus quand on parle sur de gros chantiers, par exemple le Grand Paris, où on a des chantiers immenses avec des cascades de sous-traitance où plus personne n'est responsable de rien parce que on a des ouvriers qui arrivent en 3, 4, 5, 6e chaîne de sous-traitance. Et le ministère du Travail, donc via la DARES, donc les services de recherche, de statistiques du ministère du Travail, dit elle-même que la sous-traitance, par exemple, est intrinsèquement lié à un taux d'accident du travail élevé. Donc en fait, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Absolument rien. Je suis pas en train de dire que tous les employeurs sont des salauds, qu'aucun ne se soucie de la sécurité et de la santé de ses salariés, qu'il n'y a aucun employeur qui s'occupe correctement de ses apprentis, etc. Mais le problème, c'est qu'il y en a. Et que trop souvent, on va venir pointer l'erreur individuelle de la victime en nous disant « Ah bah oui, mais il s'était pas attaché. Ah bah oui, mais il a été marcher à un endroit où il n'aurait pas dû aller. Ah bah oui, mais il a fait telle erreur, il a mal boulonné son échafaudage et du coup il est tombé. » Sans se demander « Mais pourquoi ? Pourquoi il n'a pas pris son harnais ? Pourquoi à un moment il a dû aller à tel endroit où il aurait fallu ne pas aller ? Pourquoi il a mal fixé son échafaudage alors que d'habitude il le fait toujours correctement ?» Et quand on creuse un petit peu, on voit... ils étaient trois au lieu d'être quatre. Le travailleur, il s'est retrouvé avec des intérimaires recrutés au dernier moment, sans aucune formation, et que du coup, il a dû faire tout seul le boulot de trois, et que du coup, il a mal fait son travail, et que il est mort. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à sa famille ? C'est de sa faute. Donc parfois, ça va être des travailleurs, des jeunes travailleurs recrutés sous statut d'apprenti, de stagiaire, ou même de saisonnier, qui n'ont aucune formation, et que l'on fait travailler comme un salarié lambda, qui lui a eu la formation pour faire ce travail-là. Et après, on s'étonne qu'il y ait un accident. Mais pourquoi ? Pourquoi l'échafaudage est tombé ? Pourquoi il avait mis trop de charge sur sa machine ? Parce qu'il connaissait pas la machine, parce qu'il avait jamais fait ça de sa vie, parce qu'il débute, parce que vous l'avez laissé tout seul, parce que vous l'avez pas accompagné. Et les raisons, elles ne manquent pas. Mais dès qu'il y a erreur individuelle, tout d'un coup, et c'est tellement facile en plus, de venir dire que celui qui est mort et qui est même plus là pour expliquer ce qui s'est passé et pour nous faire comprendre, c'est tellement facile de venir lui remettre toute la faute sur les épaules et dire c'est de sa faute. Dans la plupart des procès que j'ai un peu épluché et suivi, c'est toujours la même ligne, c'est l'erreur individuelle. Fermez le banc, on s'arrêtera là, ne réfléchissons plus. On entend souvent dire que le risque zéro n'existe pas. Moi non, je me résoudrais jamais à entendre ça. J'ai entendu sur les chantiers du Grand Paris, parfois, je rappellerai tout de même que sur le chantier de la Tour Eiffel, par exemple, un chantier qui a duré presque 2 ans, il n'y a pas eu de mort. Et si ça a été possible pour le chantier de la Tour Eiffel, où les conditions de travail étaient tout de même pas les mêmes qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible aujourd'hui.
Au printemps dernier, un premier procès a eu lieu à propos de la mort de Maxime Wagner en 2020 sur le chantier de la ligne 14 du Grand Paris. Employeurs et filiales ont été poursuivis pour homicide involontaire et 2 supérieurs hiérarchiques de l'ouvrier intérimaire ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende. On retrouve Sophie Parmentier sur un autre chantier du Grand Paris, celui de la ligne 18 au sud de la capitale, à Orsay-Gif.
France Inter, Interception.
Donc on va monter par là.
Ok, on va enjamber une petite passerelle provisoire pour les travaux. Vous, vous êtes ingénieur sur ce chantier ?
Moi, je suis ingénieur, je suis directeur de projet adjoint, responsable de la section aérienne de la ligne 18.
Et vous vous appelez ?
Je m'appelle Thomas Pouli. Là, on monte un escalier de chantier et on va arriver tout en haut du tablier.
On est à combien de mètres, là ?
Là, on est environ à 30 mètres par rapport au sol.
Faut pas avoir le vertige.
Techniquement, c'est un ouvrage assez complexe. Au final, on a réalisé un viaduc de 7 km de long, ce qui en fait le plus long pont de France.
Et là, on est en train d'enjamber une autoroute ?
Là, on franchit la Nationale 118.
Il y a combien d'ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier ?
Il y a eu, sur la construction du viaduc, il y a eu 600 personnes en période de pointe. Actuellement, on a réduit, puisque la partie béton est terminée, et on est en train de réaliser les équipements, donc la mise en œuvre des garde-corps, des écrans acoustiques et les travaux de finition. On enchaîne avec la pose des rails, puisque le train roulera sur des rails, et ça, c'est la tâche qui est en train de démarrer, puisque sur environ 2 km, la pose des rails a déjà commencé. On est quand même sur un ouvrage exceptionnel.
Et en termes de sécurité, ici, il n'y a pas eu d'ouvriers victimes d'accidents sur cette ligne 18 ?
Si, si, malheureusement, on a eu quelques accidents. Aucun accident grave jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on touche du bois pour que ça continue. On est très, très vigilants. C'est vraiment la priorité numéro un. Il n'y a pas eu d'accident grave. Des petits accidents, oui. Des blessures aux mains, par exemple, ça, c'est quelque chose. Même si les gants sont obligatoires, malheureusement, on a encore des blessures aux mains. On a aussi des gens qui se sont, par exemple, tordus la cheville en descendant d'un véhicule ou en descendant d'une marche. Donc, ça prouve que même des gestes très simples, il faut être hyper vigilant parce que ça, ça peut aussi conduire à des accidents. Donc voilà, le message est en permanence passé. On a fait plusieurs même journées dédiées à la sécurité. Tout le monde doit se sentir concerné par sa propre sécurité et celle de ses collègues.
Mais vous, est-ce que vous pouvez être certain que les personnes qui sont là, qui travaillent sur le chantier, sont forcément bien formées et qu'elles comprennent bien les ordres, en fait ? J'ai croisé des gens qui ne parlaient pas forcément français, en fait. Comment font-ils pour vous comprendre ?
Donc ils n'ont pas à me comprendre, moi, directement. Par contre, c'est important qu'ils comprennent bien leur chef d'équipe. Et donc, un des enjeux, c'est effectivement de coordonner, de faire travailler ensemble des personnes avec des cultures et des métiers aussi différents.
Nous voilà devant un bâtiment de couleur brique, 6 lettres sur la façade, OPP-BTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics. On a rendez-vous avec la direction. Bonjour. Dans le petit salon où on attend pour patienter, il y a tout un tas de magazines sur la prévention du BTP, avec à la une un sujet sur les intérimaires. Quel suivi pour la santé des intérimaires ? Bonjour.
Enchanté, bienvenue chez vous.
Bonjour monsieur.
Enchanté.
Bonjour. On monte dans l'ascenseur.
Toutes les machines doivent avoir des protections de sécurité. Mais il subsiste des risques qu'un simple geste, mettre des lunettes, mettre une paire de gants, permet de prévenir.
Le personnel qu'on a aujourd'hui, tout est formé. Même moi, je fais des formations, des stages.
L'avantage de la prévention, c'est qu'on peut aujourd'hui former les ouvriers à utiliser le matériel. Là, aujourd'hui, Thibault peut utiliser la nacelle à 100% et en étant protégé et en connaissant les risques.
Devant ces machines qui tournent, à la moindre défaillance, distraction d'un instant, fatigue passagère, c'est l'accident que gants et lunettes peuvent éviter.
Tous les embauchés, déjà, ils ont une semaine de sécurité. Et tout ce qui est intérimaire aussi, ils ont le passeport sécurité. Ça veut dire, voilà, s'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de métier.
Bienvenue à la direction technique.
Je vous suis.
Installez-vous, tout on va se mettre à la table.
Merci.
Là où vous vous sentez à l'aise.
Mon nom est Paul Dufilm, je suis secrétaire général de l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie, beaucoup à l'international.
Est-ce que vous observez encore beaucoup trop de situations dangereuses sur les chantiers qui mettent les ouvriers en péril ?
Alors, quand on va sur un chantier, oui, de fait, dans un certain nombre de cas, et c'est plus le cas sur des chantiers de plus petite taille, on voit des situations qui ne sont pas parfaites. Parce qu'on voit des ouvriers qui se mettent en danger eux-mêmes. Une des premières difficultés, je dirais, dans la prévention des risques professionnels, c'est de lutter contre l'accoutumance du danger, qui fait qu'on ne voit plus le risque.
Votre boussole quotidienne, c'est la prévention. Vous devez à la fois convaincre les patrons et les ouvriers. Et c'est ça qui est difficile, si je comprends bien. C'est que, à la fois sur le terrain, les ouvriers disent parfois que les patrons les mettent en danger avec des exigences de rapidité et pas toujours de précautions pour eux. Et les patrons, de leur côté, peuvent dire que les ouvriers, en fait, ne respectent pas forcément les consignes qu'on leur indique pour se protéger. Vous, vous êtes au milieu, c'est ça ?
Alors, nous, on est un petit peu au milieu. Enfin, je dirais surtout qu'on est avec les deux. Plus qu'être au milieu, nous avons vocation à accompagner les uns et les autres. Et effectivement, l'un des enjeux en prévention, c'est de trouver les bons argumentaires et de s'assurer que les uns et les autres utilisent les bons argumentaires. Et nous, à l'OPPBTP, on souhaite d'abord tirer des ressorts positifs des personnes. Nous, nous sommes d'abord là pour appeler à la responsabilité des uns et des autres. On est très attentif à d'abord la montée en compétence des personnels eux-mêmes, d'où les moyens que nous mettons sur la formation initiale, pour que le jeune de lui-même, en arrivant dans le métier, sache dire « mais ça, je ne fais pas », qu'il sache dire à son patron « ça, il ne faut pas faire comme ça ». Formellement, on a le droit de retrait hein, dans le droit français. Il ne faut pas que ce soit un droit simplement théorique, parce qu'on ne peut pas mettre en risque sa vie, voire même, je dirais, son intégrité physique, simplement pour une tâche qui, certes, vous nourrit aujourd'hui, mais il faut aussi se nourrir demain. Et c'est la même chose pour les chefs d'entreprise. Ça ne doit pas être la peur du bâton qui fait agir. C'est d'abord, je dirais, son intérêt bien compris. Je veux dire, je ne connais pas un seul patron qui ait vécu un accident sans être traumatisé par cet accident.
Moi, je suis Karine Janot-Forestier, je suis au sein de la direction technique et donc au sein de l'organisme en charge des relations, des actions, des sujets qui concernent la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc ce qu'on appelle plus globalement les acteurs de la construction. Mon CV, anciennement directeur de travaux, conducteur de travaux dans une grande entreprise française. Et avant cela, quelques années dans l'événementiel, donc un parcours un peu particulier, mais un choix de venir dans les métiers de la construction, un choix de venir dans la prévention aussi, pour avoir vécu le chantier, ses forces, ses difficultés, sa richesse, son humanité, mais aussi sa dureté.
Depuis quand vous êtes engagé, vous, dans cet organisme pour la prévention ?
Alors moi, je suis entrée à l'OPPBTP en 2005. Engagement, oui. En tout cas, une prise de conscience violente sur un chantier en 2002, puisque j'avais la responsabilité d'une opération lorsque j'ai perdu un des membres de mon équipe dans un accident mortel. Donc, prise de conscience violente, comme l'ont beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de salariés, bien entendu, puisque dans ces cas-là, c'est la victime, c'est la famille. Mais moi, je l'ai vécu comme un traumatisme et j'ai eu le souhait d'agir, non plus simplement pour construire ce que je construisais, c'est-à-dire des ouvrages de gestion de déchets et des ouvrages environnementaux, mais de protéger les hommes qui construisaient. Voilà.
Ça a été un cataclysme dans votre vie professionnelle ?
Oui, vie professionnelle et vie personnelle aussi, oui, tout à fait. Mais comme le vivent au quotidien tous ceux qui malheureusement subissent ce traumatisme-là sur les chantiers. Et je pense avant tout aux victimes, aux familles. Je pense avant tout aux entrepreneurs qui vivent ça. La prise de conscience est toujours très brutale dans ces cas-là, mais il n'y a pas de fatalisme.
Et vous vous êtes senti coupable de cet accident mortel survenu sous votre responsabilité ?
Oui, comme je pense chacun de ceux qui vivent ce genre de situation, oui. Coupable ou responsable, après, la justice fait son œuvre et son ouvrage, mais humainement, en tout cas, moi, l'individu que je suis, oui, s'est senti responsable de ce qui s'était passé. Mais comme je pense, beaucoup de personnes dont les comportements, les actions, les décisions ont concouru à ce drame.
Et pour ce drame, il y a eu un procès ?
Tout à fait. Mais dont je ne parlerai pas, vous vous en doutez.
Après, vous avez décidé du coup de vous engager pour la prévention et vous avez complètement transformé votre vision, vous avez voulu être utile autrement, il y a eu un avant et un après, c'est ça pour vous ?
Tout à fait. Une volonté de transformer ça en quelque chose de constructif, de positif.
Ça fait une vingtaine d'années que vous êtes dans ce rôle de prévention. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer ? Quel constat faites-vous ?
On a toujours une sinistralité trop élevée. Plus de 100 personnes décèdent sur des chantiers de bâtiments en France chaque année. C'est toujours beaucoup trop, bien évidemment. Mais si on remet ça à la perspective, alors je vais remonter très loin. L'année de la création de l'OPPBTP, nous étions à plus de 1500 morts.
En 1947.
Tout à fait.
Vous, vous êtes convaincu que c'est une question de mentalité, justement, de culture, et que c'est cela qu'il faut faire évoluer en premier lieu.
On évoluera culturellement si on met en place des outils, des solutions, et que la technique, la technologie avance. Et on a la chance, voire le privilège, de vivre une époque où la technique évolue très très vite. On est au 21e siècle, on parle d'intelligence artificielle, on se blesse encore, on se tue encore au travail. Tout accident est un accident de trop. Lorsqu'il ne s'agit pas du Grand Paris, lorsqu'il ne s'agit pas des Jeux Olympiques, on en parle certainement moins. Et les moyens auraient dû tout autant être mis pour que ce soit évité. Donc, qu'il s'agisse du Grand Paris, qu'il s'agisse de n'importe quelle opération de construction, un accident est toujours de trop, un mort est toujours inentendable et inacceptable.
Grand Paris, quel coup humain pour ce chantier titanesque. Un reportage de Sophie Parmentier, prise de son Raymond Albouy. Réalisation Charles de Silia, assisté de Martine Messonnier et Pierre Chabert. Mixage Tahar Bouklifa. Cette émission est disponible dès maintenant à la réécoute sur franceinter.fr.